Bonjour à tous. Que la joie et la paix du Seigneur soient avec vous. J'ai choisi le livre de Daniel parce que je me suis dit à Saint-Maur, il y a très peu d'Anciens Testaments qui sont prêchés. Donc là, j'ai commencé par le livre de Daniel. Avant de vous parler de Daniel, je vais vous expliquer un peu le concept de l'époque de Daniel. À partir du moment que Adam a choisi de désobéir à Dieu, l'homme est donc séparé de Dieu, ne peut plus être en présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a déjà décidé, avant la chute de Adam, de nous racheter par son Fils Jésus-Christ. Et il a fait à partir de... Il y a Genèse 3, verset 15. « Je susciterai l'hostilité entre ta descendance au serpent et la descendance de la femme. Celle-ci écrase ta tête et tu blesseras son talon. » C'est à partir de là, Dieu a déjà décidé de choisir Abraham. À partir d'Abraham, il a constitué le peuple Israël dans l'Ancien Testament. Et à partir du roi Saül, l'Israël, le royaume est un roi. Ensuite, c'est le roi David. Ensuite, c'est Salomon. Nous savons tous que Salomon, c'est le roi qui a le plus de sagesse que tout le monde. Mais dans sa vieillesse, il a pris 1000 femmes et concubines. Et à cause de cela, son cœur n'est plus attaché seul à l'Éternel. Il n'adore plus Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force. Il a suivi les femmes cananéennes pour adorer les idoles des autres femmes. Dieu s'est révélé à Salomon dans deux visions, lui demander de se repentir, revenir à lui. Le roi Salomon n'a rien vouloir entendu. C'est pour cela que Dieu lui a dit, c'est décidé, ton royaume n'est plus unifié. Après ta mort, je vais diviser ton royaume en deux royaumes. Donc, le royaume d'Israël est divisé en deux. Le royaume du sud restera toujours pour toute la descendance du roi David. Parce que Dieu a dit, c'est parce que David est vraiment un homme selon son cœur. Et ça s'appelle Juda, quand vous lisez l'Ancien Testament. Et ça concerne deux tribus. Le tribu de David et de Benjamin. Le premier roi du royaume de Juda, c'est Roboam, le fils de Salomon. Par contre, l'autre partie, ça s'appelle Israël. Donc, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, quand on dit Israël, c'est le royaume du Nord. Il y a 10 autres tribus. Et le premier roi, c'est Jéroboam. Alors, tous les rois du royaume du Nord étaient des rois mauvais. Ils font ce que l'Éternel considère comme mal. Déjà, à partir de Jéroboam, il a fait fondre deux veaux d'or, il a mis dans deux villes en Israël, et parce qu'il a peur que si le peuple Israël continue à rendre un culte à Dieu à Jérusalem, le peuple du nord va suivre le roi du sud. Et c'est pour cela, pour les faire détourner de l'Éternel, leur Dieu qui les a sortis vraiment d'Égypte, il a construit deux veaux par statues d'or. Il dit, c'est lui que vous avez adoré. Et c'est depuis, à partir de lui, tous les rois, le peuple d'Israël du Nord, se détournent de l'Éternel. Donc, à partir, c'est pour cela que le royaume du Nord, l'Israël, est détruit en 772 avant Jésus-Christ par la Syrie. Le royaume du Sud subsistent encore. Mais ils n'ont pas pris cette destruction comme avertissement. Ils continuent à s'endetter, à se détourner de l'Éternel, le vrai Dieu. En plus, ils pensent que Jérusalem ne sera jamais détruite, ne sera jamais attaquée. Pourquoi? Dites-vous. Parce que dans leur tête, à Jérusalem, il y a le temple, de Dieu. Et dans le temple, il y a le Dieu très saint. Et il y a l'arche de l'Alliance qui est dans le Dieu très saint. Pour eux, l'arche de l'Alliance, la présence de l'arche, symbolise la présence de Dieu. Donc, puisque Dieu est avec eux, l'arche est dans leur temple, ils seront inattrapables. Mais ça montre bien qu'ils n'ont pas la vraie connaissance de Dieu. Depuis tout le temps, déjà, avant qu'ils soient entrés dans le pays Canaan, Dieu a déjà dit à Moïse de annoncer toutes les bénédictions, condition qu'il obéit à Dieu, toutes les bénédictions qui découlent, et sur une autre montagne, toutes les malédictions qui vont tomber sur eux s'ils ont choisi de désobéir, d'être infidèles à Dieu. Mais ça, pour eux, ils ont oublié. Ils se disent, ils feront un peu comme nous aujourd'hui, un talisman, j'ai porté quelque chose qui me protège, peu importe quel Dieu, je suis protégé. L'arche de l'Alliance, ça assure leur sécurité de Jérusalem. Mais Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu est un Dieu de relation. Dieu a vraiment, il veut, on a chanté tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu veut qu'on vit en lui. Mais le chef de Juda, le roi Juda, les responsables, ils n'ont rien compris, ils continuent. Ils pensent qu'ils continuent à offrir l'holocauste matin et soir, sacrifient tout à Dieu. Ils ont accompli leur devoir religieux. C'est bon, ça satisfait Dieu. Ça peut être ainsi pour les idoles. Et pour notre Dieu, qui aime une relation directe, personnelle entre chacun de ses enfants, ça ne suffit pas. C'est pour cela que dans Ésaïe, Dieu a dit à Ésaïe, dis-le, arrête de m'offrir des sacrifices, j'ai horreur, je ferme les yeux et je regarde pas, je n'agrée pas. Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour leur donner avertissement, Ésaïe, Jérémie, les plus connus, d'autres encore, pour leur dire, arrêtez de vous tourner vers les idoles, détournez-vous des idoles, tournez vers moi. Alors, ils ont vraiment bien rien voulu comprendre. Du coup, Dieu a permis, le jugement est tombé. Il y a trois. Avant la chute finale, en 586 avant Jésus-Christ, il y a eu deux vagues de déportations avant. Daniel fait partie de la première vague de déportation. C'est en 606 avant Jésus-Christ. Vous avez lu tout à l'heure que c'est sous le règne du roi Josaquim que Dieu a permis que Jérusalem soit assiégée, soit vaincue. Mais là, le roi de Babylone n'a pas encore déporté toute la population. Il a seulement amené quelques jeunes élites du royaume pour se faire former, pour être son serviteur. Deuxième vague de déportation, en 597, c'est avant Jésus-Christ, Ézéchiel fait partie de cette déportation. Et la dernière finale, c'est 586 avant Jésus-Christ, là c'est fini. C'est la chute totale de Jérusalem. Les murailles de la ville sont détruites, brûlées, et le temple aussi. C'est pour cela, vous voyez qu'après, Néhémie est rentré pour rétablir. Voilà, on revient. Comme ça, vous avez une idée précise de comment déroule l'histoire. Alors, on revient sur Babylone. Donc, la première vague de déportation. Le projet du roi de Babylone, c'est de déporter quelques jeunes élites qui font partie de la famille royale ou de la haute famille bourgeoise pour vraiment se faire former au palais royal et après servir le roi. Alors, le roi a choisi les jeunes. Je pense que Daniel et ses trois compagnons, ils ont à peu près 14-15 ans à cette époque. Et le roi choisit selon trois critères. La première critère, la sélection, il ne choisit pas n'importe qui. Déjà, physiquement, j'ai lu tout à l'heure, ils sont sans handicap, sans maladie, et beau, belle figure. Deuxième, critère mental, intellectuel. Ils sont doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Troisième critère, critère social. relations sociales, ils ont choisi les jeunes issus de la famille royale. Tous ces jeunes de la famille, ils savent sur le politesse et tout, ils savent comment parler. Si vous allez chercher des jeunes qui n'ont pas reçu d'éducation, ils vont pas savoir comment parler auprès du roi. Donc, le roi, vraiment, il sélectionne déjà ces jeunes qui ont des qualités qui sont aptes à déjà suivre la formation. Et vous rendez compte, en 3 ans, il doit apprendre à parler et à écrire la langue chaldienne. Est-ce que vous allez dans un autre pays étranger, vous pouvez apprendre en 3 ans, écrire et lire tout, je ne sais pas, cambodgien ou sénégalien ou j'en sais rien, ou chinois. Je pense qu'il faut plus que 3 ans. Mais bon, ces jeunes, ils sont vraiment très, très forts. Voilà. Alors là-dedans, le roi propose que les jeunes prennent le même repas et les mêmes boissons que le roi. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ah oui. Alors, le roi a changé le nom de Daniel. Daniel, en hébreu, c'est Dieu est mon juge. Et dans la langue Belshazzar, ça veut dire Bel protège le roi. Bel, c'est le nom d'un dieu babylonien. Alors, après Anania, en hébreu, c'est éternel et bienveillant. Transformé en Shadrach, c'est commandant Accu. Accu, c'est encore un autre nom d'un dieu de Babylone. Ensuite, Michael. Qui est comme Dieu? C'est changé en Meshach. Qu'est-ce que c'est Accu? Donc Accu, c'est le nom du Dieu de Babylone. Azaria, éternel est mon soutien. Est changé à Beth-Nego, serviteur de Nego. Nego, c'est encore un Dieu de Babylone. Donc vous voyez la subtilité du roi. Ils ont changé le nom de tous ces jeunes qui est attaché à Dieu éternel. Ils ont changé maintenant leur nom en rapport avec un dieu de Babylone, un idole. Je pense que le roi a, dans son idée, changé le nom des jeunes, leur donné la culture, l'enseignement, l'éducation chaldienne pour que tout soit changé, qui sont plus hébreux, juifs, mais devenir babyloniennes. Bon, c'est un peu, je pense, c'est un peu comme vous, les générations, peu importe, chinoises ou d'autres, nées en France et tout, avec la culture, on n'est plus, bon, bref. Mais là, on voit bien une petite comparaison, il n'y a pas de... mais nous voyons que le but du roi n'est pas atteint. Ils n'arrivent pas, ils vont beau changer leur nom, leur apprendre la langue, mais nous voyons par la suite la réaction de Daniel, que leur foi, leur connaissance de leur Dieu reste intacte. Daniel, qu'est-ce qu'il fait avec ses 3 compagnons, 3 amis, peut-être vous allez dire, avoir 3 à manger comme le roi il mange. Si le président Macron vous propose de manger comme lui, vous allez dire non ou oui? Non, David l'a dit non. Bon, alors, revenons sur Daniel. Alors, Daniel, il a dit non. Non, c'est pas possible. On ne veut pas consommer la même nourriture et les boissons du roi. Est-ce que vous connaissez la raison? Il y a 2 raisons. Première raison, à l'époque, vous savez, il y a le peuple juif et le non-juif, donc païen. Dans le Lévitique 11, vous trouvez toute une liste des animaux que Dieu leur permet de consommer et des animaux qu'ils ne consomment pas. Et dont Il y a certains animaux que les païens consomment, que les juifs n'ont pas le droit de consommer. Donc, Daniel ne veut pas consommer des animaux qui n'est pas autorisé par la loi. Deuxième raison. À l'époque de Daniel, la plupart des mets sont d'abord offerts aux idoles avant de les consommer. C'est pareil. Si Daniel consomme ces éléments, aliments, ça veut dire qu'il va honorer les idoles. Donc, Daniel a choisi, il a bien bien compris que tout ce qu'il cherche, comme nous l'a chanté, plaire à Dieu, adorer Dieu tout seul. Voilà. Donc, ils n'ont pas pensé à la conséquence de leur refus. Il peut être coupé la tête, mais ils s'en foutent. Ils disent ça au chef du personnel, non, on ne veut pas manger, consommer la nourriture et les boissons du roi. Et alors, quelle est la conséquence? Oui, donc pour vous dire que Daniel et ses compagnons sont vraiment pris la décision de refuser. Alors, parce qu'ils connaissent bien Dieu. Peut-être à leur place, mettez-vous à leur place. Ils sont déportés loin de Jérusalem. Ça doit faire 800 km ou 1000 km. Loin de leur pays, loin de leur culture. Ils peuvent être en colère contre Dieu. Ils peuvent dire pourquoi tu ne l'as laissé. Non, ils n'ont aucun colère. Parce que comme ils connaissent Dieu, ils savent que leur situation, comme David il a dit tout à l'heure, là où Dieu nous place, c'est pour que la personne apprenne quelque chose. Ne jamais se plaindre de la situation, la circonstance où Dieu nous met. En fait, c'est une leçon d'épreuve. Jacques l'a dit, considéré comme une sujet de joie complète même à tous les épreuves que vous êtes soumis. Parce que c'est ces épreuves, pour qu'une fois on passe l'épreuve, la mise à l'épreuve une autre fois, pour que ça, si on persévère, on arrive jusqu'au bout. Et comme ça, c'est à travers les épreuves que Dieu nous forme pour qu'on devienne vraiment pur et irréprochable. Voilà. Donc Daniel et ses compagnons comprennent bien qu'ils sont là parce que Dieu a voulu qu'ils soient là. Donc ils l'acceptent, ils sont soumis même au roi. Ils acceptent d'être formés. Ils sont pas comme les jeunes actuels de notre société. À chaque fois, on propose une réunion. C'est non, c'est la crève, c'est la je sais pas quoi. Donc, là, c'est vraiment la soumission. Parce que ils savent que le fait que Jérusalem est tombée, c'est vraiment la malédiction que Dieu a prononcée 400 ans, 500 ans avant. Je vous ai laissé juste un... Dieu l'a dit à travers Moïse. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur, votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous ces commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Le Seigneur vous fera déporter avec le roi que vous vous serez donné chez une nation que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connu. Et là, vous adorerez d'autres dieux qui ne sont que des statues de bois ou de pierre. C'est bien ce qui est arrivé. C'est la dernière sentence. Voilà. Donc, Daniel et ses amis, ils ont une connaissance authentique profonde de Dieu, donc ils sont vraiment acceptés à soumettre. Sauf ne pas consommer les mets du roi, pour ne pas se souiller eux-mêmes. Et la conséquence de leur refus, verset 9, ils ont obtenu, Daniel a obtenu la faveur du chef de personnel. Ça me fait penser à Joseph qui est vendu en esclave en Égypte. Il a obtenu la faveur du chef la garde royale, donc Potiphar. Il a aussi obtenu la faveur du commandant de la prison. voyez? Donc, Joseph non plus, il ne s'est jamais plaint. Il était vendu en esclave. Donc, nous revenons à Daniel. Donc, après, sur le verset... Et Daniel, il a la sagesse. Il demande, il propose une période d'essai, juste pendant 10 jours. 10 jours, c'est pas long par rapport à 300. Donc, pendant 10 jours, il a dit au chef du personnel, laissez-nous consommer que des légumes et que de l'eau, et tu verras si notre mine est mauvaise ou bonne, et après cette période d'essai, tu décideras ce que tu veux. Comme Dieu l'a agi en faveur de Daniel, le chef de personnel a dit oui. Et résultat, après les 10 jours, qu'est-ce qui se passe? Eux qui mangent pas de viande, qui boivent pas du vin, ils ont meilleure mine que les autres jeunes qui mangent, qui consomment la nourriture du roi. Ils ont grossi en plus. Voilà, dans ça, Dieu les a bénis par leur obéissance, déjà physiquement. Et au terme des 300, la formation est finie, ils se sont présentés devant le roi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le roi les trouve en sagesse, en intelligence, supérieure aux autres, à tous les savants du royaume, Babylone. Combien de fois en plus? Vous y avez retenu? Oui, amen. 10 fois, c'est pas 2 fois, c'est 10 fois. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Dans la Bible, souvent, dans l'Éphésiens 1, l'apôtre Paul nous écrit, il nous a pas seulement donné, mais complet de bénédictions spirituelles. Complet, c'est un complet. Dans le psaume 23, quand David dit, ma coupe déborde, c'est que la bénédiction est tellement remplie, ça déborde. Dieu est un Dieu généreux. Il donne en surabondance. C'est pas comme nous, des fois on donne des miettes, on donne des... Mais notre Dieu est un Dieu abondant, un Dieu généreux. Voilà, donc vous voyez, ces 4 jeunes se trouvant dans un pays étranger, et leurs conditions n'étaient pas, ils sont déportés. Mais par leur obéissance, par leur fidélité envers Dieu, voilà ce que Dieu leur fait. C'est ce que Paul nous a dit dans Éphésiens, par la puissance qui agit en nous, Dieu va nous donner au-delà de ce que nous pensons, que nous demandons ou ce qu'on en penchant. Peut-être pas tout de suite, des fois c'est quelques années ou des fois, mais en tout cas, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà, comme dans le psaume 1, je vous invite de lire ensemble. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais la fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Alors ici, réussi, c'est pas dans le sens du monde. C'est pas avoir beaucoup de richesses, beaucoup de voitures ou d'autres. Réussi, c'est dans le sens du Seigneur. Donc, vous voyez ici, méditer la parole de Dieu. L'enseignement du Seigneur, c'est la parole de Dieu jour et nuit. Et dans le psaume 103, j'aime bien ce psaume-là. Ils disent que la bonté du Seigneur est pour des fidèles, dure depuis toujours et durera toujours. Sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants. S'ils respectent les règles de l'Alliance et pensent à faire ce que Dieu a commandé. Vous voyez ici, le psalmiste est en train de nous dire, pour toutes les personnes qui respectent, qui obéissent, qui sont restées fidèles à Dieu, Dieu bénit pas seulement eux, mais bénit la descendance. Je vous ai dit, hein, notre Dieu est généreux. Alors, maintenant, et nous, quel est notre choix devant, vous avez vu Daniel, maintenant nous. Nous sommes dans un monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes aussi en Babylone. Hein? Amen ou pas amen? Vous n'êtes pas convaincus? La Bible nous dit que nous sommes en Babylone. Dans Apocalypse, je vous invite de lire par la suite, 17 et 18. Je vous donne simplement... J'ai enlevé. Oui, dans Apocalypse, en fait, la Bible symbolise Babylone. C'est un monde qui ne reconnaît pas Dieu, qui ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu, qui ignore Dieu, rejette Dieu. En tout cas, c'est ce qui est, ça a été toujours le monde depuis que Adam a choisi de désobéir à Dieu. Donc, nous sommes en Babylone, pas géographiquement, mais spirituellement, nous sommes dans un monde qui rejette Dieu, qui ne tient pas compte de Dieu. Chacun vit selon ce qu'il veut. Nous avons chanté tout à l'heure, Seigneur, fais que un frère, une sœur a prié tout à l'heure que nos pensées soient cadrées, alignées sur la pensée de Dieu. Mais les pensées de notre monde ne sont jamais alignées sur les pensées de Dieu. En 21e siècle, c'est encore pire, puisque la moralité est de plus en plus bas. Il y a le mariage pour tous, il y a IVG qui monte. Ce qui m'a choqué le plus, c'est quand je prends le RER, à Nancy-le-Grand. Sur un pan aussi grand comme ça, il y a la publicité qui incite à l'adultère. Donc, je me suis dit, c'est vraiment le monde est rempli de publicité par rapport à, je ne sais pas, Anne-Marie, j'ai dû il y a 40 ans, il n'y a pas aussi de pubs que maintenant. Les pubs dans notre boîte à lettres, je dois les jeter à chaque fois, j'ai collé bien, ne me mettez pas les pubs, mais ils mettent quand même les pubs. Les publicités, ça nous incite à... C'est une tentation, c'est une séduction, c'est tout. Je ne sais pas, vous, quand vous allumez votre ordi, moi, sur l'écran de droite, là, il y a tout un... des pubs qui je ne sais pas par quelle raison, ils savent que... Moi, je suis une femme, il me sort tous les vêtements de femme. Donc, vous voyez, et mon mari me dit, lui, quand il ouvre son portable, il y a des filles blondes, je sais pas quoi, lui proposer, vous voyez. Donc, la tentation, elle est partout. On peut dire 24 heures sur 24. Donc, si on n'est pas sur notre garde, si on n'a pas Dieu à... avec nous, on peut vraiment tomber rapidement. Hein. Voilà. Alors, pour prendre des exemples, par exemple, l'exemple. Dire non, refuser de mentir. Est-ce que c'est facile? Pour moi, le mensonge, on est né quand un enfant tout petit, il commence à mentir. Hein. Les parents sont d'accord? Oui, hein, il n'y a pas besoin d'apprendre ça. Peut-être les apprendre à être sages, mais l'apprendre à ne pas mentir, ça c'est... Non, il n'y a pas besoin d'apprendre. Alors, la meilleure chose, c'est que nous, en tant que parents, on est un bon exemple. Si on dit à nos enfants ce qu'on fait, on va le faire. Si on ne fait pas, c'est qu'on ment. Donc, c'est déjà par nous. Et maintenant que nous sommes chrétiens, bien sûr, on ne doit plus mentir. Paul, il l'a dit... Ne plus mentir entre nous et dites la vérité avec amour. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si on dit, puisque nous, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de lumière en Christ. Alors, peut-être pour vous décourager de mentir, si jamais vous mentez encore, je ne vise personne. Hein. Moi aussi, j'essaie de ne plus mentir depuis que je suis chrétien. Jésus l'a dit, votre Père, il parle aux pharisiens, aux juifs qui l'attaquaient. C'est l'esprit du mal et vous voulez faire ce que votre Père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début, il n'est jamais resté dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur, c'est le père du mensonge. Là, Jésus parle du diable. Donc, maintenant, dans ma tête, je me suis dit, le diable, c'est le père du mensonge. Si je mens, je suis l'enfant du diable. Et je ne veux pas être l'enfant du diable puisque je suis l'enfant de Dieu, donc je m'abstiens, je dis non au mensonge. Si cela peut vous aider, pour être, parce que vraiment mentir c'est rapide, hein. On peut dire c'est pas grave, tout le monde l'a fait, ça ne nuira personne. Personne ne sait, c'est pas personne qui sait, si tu connais bien Dieu, tu sais que Dieu est omniprésent, omniscient. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense même, Dieu le sait. J'aime bien prendre un exemple là. Souvent, je suis accompagnée par une sœur pour m'amener quelque part. Et souvent, elle m'attriste, à chaque fois au stop, elle s'arrête jamais. C'est le soir, je suis bien d'accord. Mais une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, elle s'arrête jamais au stop. Puis un jour, j'étais seule avec lui, elle, donc je faisais un peu semblant, être surprise, qu'elle s'arrête pas au stop, mais je lui ai dit, t'arrêtes pas au stop là. Elle m'a dit, oui, c'est la nuit, il y a personne, personne ne voit. Et j'ai réussi à dire doucement, je lui ai dit, tu sais, j'appelle son prénom, mais tu sais, personne ne voit, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu sais que le père là-haut, il nous voit? Donc après, j'ai plus rien dit. Puis une semaine après, ça lui a parlé. Hein. Après, elle a quand même dit que elle va s'y mettre quoi. Voilà. Ne dites jamais, personne ne sait. Hein. Notre Père là-haut, il observe. Hein. C'est dans le psaume 33, il me semble. Il observe le monde. Alors là, c'est mensonge. Ensuite. Ne pas tricher. Dire non de ne pas tricher. C'est facile? Tricher dans les contrôles. Bon, vous n'êtes personne n'est dans les écoles maintenant. Mais je crois que c'est à la mode maintenant, hein. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait les études encore? Ah, Stéphane. Ouais. Mais il me semble que c'est la mode que les élèves trichent. Les soins, ils vont au WC pour tricher. Bref. Ou bien, je pense, tricher au travail. Si tu dois faire les comptes de l'entreprise, si le patron te demande de falsifier les factures, je ne sais pas. Ou si bien, ou dans l'autre sens, quand on embauche quelqu'un. Je crois que la France, je ne sais pas si dans les autres pays, le travail au noir, c'est assez florissant. Les gens préfèrent ne pas payer 20% de TVA, ne pas déclarer, faire des travaux à la maison, au noir, ça fait 20% de moins et de frais. Avant, je le faisais, mais depuis que j'ai lu Romains 13, j'ai compris, soumise aux autorités. Et aussi, Jésus l'a dit, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, au départ, il y a même un frère qui est chrétien qui m'a dit, tu peux le faire. Avec l'argent qui t'est économisé, tu offres à Dieu comme dîme. Et je lui ai dit, je t'ai réfléchi après, mais c'est l'argent que j'ai, en trichant, est-ce que Dieu va agréer mon argent? Alors, je trouve que ce frère-là, il est vraiment manque de sagesse. Voilà, donc vraiment, c'est un peu comme tout à l'heure, les chefs offrent les sacrifices à Dieu, mais Dieu ferme le visage, il veut pas voir. c'est pas l'argent propre. Donc, il y a plein de choses, hein. Je vous laisse que le Saint-Esprit vous éclaire. C'est pour ça que l'apôtre Jean, même l'apôtre Paul, nous demandait de nous examiner, si c'est possible, c'est chaque jour, pour voir si, comment on en est par rapport à la volonté de Dieu, nos pensées, nous, tout ça. Et Jacques, alors, les rapports sexuels avant le mariage. Maintenant, quand j'étais encore dans mon cabinet, je commence à prescrire les filles de 13, 14 ans, elles commencent à me venir consulter la pilule. J'étais choquée, mais bon, maintenant, c'est la mode. Parce que souvent, les parents me disent, je préfère qu'elles prennent la pilule que tomber enceinte. Donc, c'est vraiment, voilà, pour eux, si une fille ou un garçon n'ont pas le rapport avant le mariage, t'es pas normal, t'es voilà. Mais ça, c'est vraiment le monde qui est anti-Dieu, quoi. Voilà. Je pense que là, les frères et sœurs ont bien, je pense que... Mais il y a une époque, je suivais les jeunes, j'aurais dit cela, ils m'ont demandé de leur trouver un verset qui parle de ça explicitement. J'ai pas pu trouver de verset qui parle interdit ça, mais maintenant en lisant, je pense que Genèse 3 verset 24, quand la Bible dit l'homme quitte son père et sa mère, s'unit à sa femme, les deux ne font qu'un. C'est vraiment implicitement dire que l'homme et la femme ne peuvent avoir que la relation conjugale que dans le biais de mariage, c'est-à-dire que un seul homme, une seule femme. Puisque le mariage, c'est l'instauration, l'institution de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment... Ensuite, c'est pareil. C'est choisir le conjoint ou la conjointe. Étant chrétien, est-ce que on peut se marier avec un non-chrétien ou une non-chrétienne? Si vous connaissez bien Dieu, si vous comprenez bien ce qu'est la volonté de Dieu, vous pouvez vraiment dire comme Daniel, vraiment suivre la volonté de Dieu. Et là, Dieu vous bénit beaucoup plus. Voilà, donc la liste est longue, hein, c'est vraiment long, donc vous pouvez voir vraiment... Alors, est-ce que refuser à toutes ces choses qui sont vraiment contraires à la volonté de Dieu, est-ce que c'est facile, c'est possible? Selon vous, c'est possible? Oui, amen, puisque Daniel l'a fait, Joseph l'a fait. Et notre exemple parfait, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11, Jésus a été tenté dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Il a très faim, très soif. Et les trois fois, Satan l'a tenté. Satan lui a dit, la première chose, si tu as très faim, transforme la pierre en pain. Mais Jésus lui répond, non. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais de la bouche qui sort de la parole, qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième, il monte dans le temple et lui dit, tu peux sauter, parce que Dieu permet aux anges de te porter. En fait, Satan provoque Jésus pour qu'il tente le Seigneur, mais Jésus m'a dit non. Il a dit non, je ne tente pas Dieu. Troisième, c'est il lui montre toutes les richesses, les royaumes, tout ça. Et lui, tu prosternes devant moi, je te donne tout ça. C'est pareil, Jésus a dit non. Non, tu adoreras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Le Seigneur nous a donné un exemple parfait de ne pas vraiment, et ça rejoint. C'est ce que dit Jean. N'aimons pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur ses biens terrestres. Eh bien, tout cela ne vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer. Ainsi, tout ce que l'on y trouve à désirer, mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a exhorté aussi de regarder vers les choses invisibles, pas sur les choses visibles. Parce que les choses invisibles durent éternellement, les choses visibles, c'est pour un temps. Jésus aussi l'a exhorté. Cherchez non pas la nourriture périssable, mais celle qui subsiste jusqu'à dans la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, c'est possible à condition que chacun de nous soit comme Daniel, ait une relation personnelle, intime avec Dieu, connaît bien Dieu et sa volonté. Il n'y a que dans cette condition-là, dans sa grâce, nous sommes sauvés par grâce, par la foi. Nous cheminons sur la progression à la sainteté, toujours par grâce, par la miséricorde de Dieu. Et c'est en faisant comme ça, en cherchant toujours à obéir au Père, même parfois ça nous coûte très cher, peu importe, mais tout au bout, ça vaut la peine. Dieu nous a créés, il connaît nos pensées, il connaît nos besoins. Moi, je pense que Dieu veut nous donner le meilleur. Et nous, souvent, dans notre orgueil ou notre ignorance, on préfère avoir des choses rapidement, tout de suite. On choisit les choses pas les meilleures, mais de moyenne gamme, quoi. Donc, parce que vous avez remarqué dans la Bible, le verbe qui répète tout le temps, c'est quoi? Persévérer. C'est pas je veux ça, parce que nous vivons maintenant dans une société qui veut tout de suite. C'est pour ça les fast-food, ça marche bien. Les gens ne veulent plus attendre, même pour manger. Il veut commander, il est dans les 5 minutes qui suit. Quand j'étais dans mon cabinet, les gens ils viennent me consulter quand ils sont malades. Je donne traitement. Docteur, je suis guérie demain. Moi, je dis. Je leur dis, avec le meilleur traitement du monde, si t'as une grippe, t'as une pharyngite, tu ne peux pas être guérie le lendemain, quoi. Les gens, ils sont dans l'instantané. Mais c'est pas ça. Dieu veut persévérer. Voilà, donc vraiment, il a chanté tout à l'heure, Christ en nous. Ça veut dire quoi, Christ en nous? Jésus l'a dit, je suis le cep, vous êtes des sarments, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Sans moi, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, ne pas porter du fruit. Demeurer en Christ, c'est vraiment, il n'y a pas de secret. Il y a ça. Il y a la Bible. Lire la Bible est comme le psalmiste 1, méditer la parole de Dieu jour et nuit pour que la parole nous purifie, nous transforme à l'image de Christ, à l'image que Dieu a créée dès le début de la création, que c'était souillé par la désobéissance de Adam. Voilà. Donc vraiment, c'est Il n'y a pas de secret. C'est ce que Jacques il dit. Au contraire, dans Jacques chapitre 1, verset 25, au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas, il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. C'est à peu près la même chose que le psaume 1. Vous voyez, la loi de Dieu, c'est parfait, qui nous rend libres. Ne pas prendre interdiction comme des choses vieux jeux ou je sais pas, c'est dur à y arriver. Non, Dieu ne demande pas impossible. Paul, dans l'épître philippien, il nous a dit, Dieu donne le vouloir et le faire. Si nous sommes d'accord de le suivre, nous rendrons capables d'y arriver. Pour refuser, pour dire non, il faut beaucoup plus de courage, n'est-ce pas, que de dire oui. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes une personne qui n'ose jamais dire non à quelqu'un quand il te demande un service, tu dis toujours oui, mais parce que tu veux pas l'offenser, tu veux pas qu'il te déteste ou quoi, tu dis toujours oui, mais tu vas le faire avec mauvais cœur et avec tout ça, mais il vaut mieux parfois dire non. Et Jésus nous a dit, il faut pas chercher l'approbation des hommes. Il faut chercher l'approbation du Père d'abord. Père, une fois notre relation intime réglée vraiment avec Dieu, le reste, ça va couler de source. Vous voyez, Daniel, il cherche d'abord obéir à Dieu, mais le reste, c'est aplani. Il obtient la faveur du chef du personnel. Il y a Meyabin, il a 10 fois sagesse. Bon, là, je vous garantis pas, Dieu nous donne 10 fois sagesse que, comme Daniel, mais bon, vous avez 10 fois autre chose. Alors, pour terminer, je vous donne juste un petit exemple que j'ai vécu hier, récemment. Laurent, j'ai demandé l'accord à Laurent et il est d'accord que je partage. Laurent, hier, il vient de recevoir le résultat de son examen du 2e partiel. Il n'a pas la moyenne générale. Il lui manque 0,4 points. Il a 9,6, il faut 10. Et à cause de ça, il va devoir passer le rattrapage en 3 matières. Et du coup, la période, il doit repasser. J'avais acheté un billet pour aller en Angleterre avec lui. De nouveau, billet d'avion. Non. Donc, là, c'est d'Angleterre, hein. C'est moins cher, donc ça va. Donc, mais avant ça, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, quel que soit le résultat de Laurent, parce que Laurent n'arrête pas de me dire, après son patient, mais je vais passer le rattrapage. J'ai mal fait, mais mal fait. Il lui dit, arrête de dire ça, c'est Dieu qui est souverain. Et j'ai prié avant d'avoir le résultat, j'ai dit, Dieu, Seigneur, que même s'il doit passer le rattrapage, tu sois loué. J'ai dit ça. Mais quand Laurent m'a dit, il doit passer le rattrapage, j'étais pas trop enchantée. Je commence à lui dire, tiens, Laurent, t'as bien bossé pendant la révision. Pourquoi t'as pas eu? Dans ma tête, c'est bien bossé, bon résultat. Parce que ça, c'est ça qui m'est arrivé, hein, donc bon. Mais après, j'ai tout de suite arrêté. Vous voyez, c'est, je vous dis, hein, c'est hier matin, là. Et après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, j'ai dit à Dieu que j'accepte quelquefois le résultat et maintenant qu'il doit repasser, il va pas en enquêter avec moi, je commence à être plein de mécontent parce que, du coup, je me suis dit, Laurent, il doit être encore pire que moi, quoi, parce que c'est lui qui va passer le rattrapage. Donc, du coup, je me suis arrêtée. Il faut que je présente mes excuses à Laurent, là, j'ai pas encore. Et j'ai dit, Laurent, c'est pas grave, bon, voilà, tu vas passer le rattrapage, et voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est pas facile, hein. Quand on est devant des choses qui touchent, donc, mais après, je me suis dit, Dieu a permis cela pour que après, il va pouvoir consoler ceux qui passent le rattrapage. C'est ce que Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 1. Dieu nous permet des épreuves pour que, en recevant le réconfort de Dieu, on peut, ayant vécu la même chose, réconforter ceux qui ont passé par les mêmes choses. Donc, du coup, j'ai dit, Alléluia, Dieu soit béni. Vous voyez? C'est vraiment, dire ça, quand tout va bien, c'est facile. Quand ça va pas mal, mais pas comme on veut, c'est l'épreuve de le moment, la vérité, quoi. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, Daniel, il arrive. Je pense que nous, on arrive aussi. Tout à l'heure, Anne-Marie, je suis d'accord avec toi. Vraiment, nous pouvons vraiment aimer les uns des autres. Je rajoute autre chose. C'est vraiment, nous devons confesser notre faute, notre péché chaque jour. J'ai lu plusieurs livres d'un auteur chrétien qui parle toujours de la grâce. Ça m'a, au départ, ça m'a beaucoup choqué, mais après, je me suis dit, il m'a dit que nous sommes des pécheurs repentis, pécheurs sauvés, mais on reste pécheurs tous les jours. On pêche, moi et toi, on pêche tous les jours. Et au départ, quand je lis ça, je me suis dit, c'est quoi ça? Mais après, je me dis, j'ai compris, hein. Lui, c'est un chrétien qui date de longtemps. Donc, on a besoin, il encourage à chacun entre nous de méditer l'évangile, méditer la mort de Jésus à la croix, chaque jour, pour nous rappeler que, comme dit Pierre, nous sommes rachetés pas par des choses vaines, mais par le sang, par la vie de Jésus, pour qu'on puisse vraiment vivre une vie de repentance, de confession, et pour pouvoir après partir vers la sanctification. Sinon, on reste attiré par l'orgueil et dire que oui, j'arrive, par exemple moi, des fois quand j'arrive à n'être pas en colère toute la journée, j'étais content, mais après je me suis dit, c'est l'orgueil ça, c'est pas bien. Donc voilà, et à chaque fois quand je suis de nouveau en colère, je dis oui, t'as raté et tout. Non, mais c'est vraiment, nous sommes tous des pécheurs et jusqu'à notre rencontre avec le Seigneur, on reste des pécheurs, mais pécheurs pardonnés. Mais pécheurs, on doit être des pécheurs repentis. La relation entre chacun de nous. Parfois, on n'a pas envie de blesser l'autre. Mais on est maladroite. Par notre caractère, par notre, hein. Si, tu te sens offensé par exemple, que je parle, tu crois que je parle méchamment, mais finalement, c'est parce que j'ai haussé un peu le ton. Là, si tu te sens offensé par un frère, une sœur, il faut aller lui dire. Avec amour, voilà, douceur, dire que voilà, ça, comme ça chacun, comme Paul nous a exhorté, pardonnons-nous les uns les autres, comme ça, c'est dans cette condition-là qu'on peut vraiment grandir ensemble dans la sainteté. Voilà, pour terminer, j'ai juste ça à vous partager. Voilà. Si nous avons goûté à la grâce de Dieu, alors construisons notre vie en Jésus-Christ, notre rocher, on a chanté tout à l'heure. Fixons nos regards sur Jésus-Christ, au ciel, pas dans le monde, pas aux richesses, pas tout ça. Cultivons notre relation personnelle avec Dieu. Prendre un temps à part chaque jour, frères et sœurs. Même si tu travailles, tu peux avancer ton réveil un quart d'heure plus tôt. Si nous chantons que Seigneur, je t'adore, Seigneur, tu es la première dans ma grâce, il faut, comme dit Jacques, que notre foi soit accompagnée de l'acte. Et ça sera Jésus lui-même qui nous rend capable de dire non à toutes les choses contraires à la volonté de Dieu. Si nous passons du temps avec Christ, le Christ qui est en nous va grandir. Voilà. Prions ensemble. Notre Père, notre bien-aimé Père, merci vraiment pour ta parole. Tu nous as laissé ta parole pour nous conduire vers la sanctification. Et ta parole nous purifie, nous sanctifie, Seigneur. Et merci pour l'esprit aussi que tu nous donnes, Seigneur, qui nous convainc du péché, Seigneur, que nous sommes toujours un pécheur qui a besoin de ta grâce et de ta miséricorde pour vraiment avoir une vie qui est conforme à ta volonté, Seigneur, pour ressembler à l'image de ton Fils, Seigneur. Bénis chacun de nous ici présents, donne-nous toujours soif et faim de toi, de passer du temps auprès de toi, Seigneur, pour les personnes qui n'ont pas encore fait, Seigneur, que tu leur donnes vraiment ce cœur, Seigneur. Tu l'as dit dans toi-même, tu donnes le vouloir et le faire. Et toi qui as commencé l'œuvre en chacun de nous, tu l'as poursuivi jusqu'à son terme, Seigneur. Merci vraiment pour le salut que tu nous as accordé en ton Fils qui est mort à la croix pour chacun de nous, Seigneur. Et merci encore pour la grâce que tu nous conduis chaque jour. bénit chacun de nous le reste de la semaine jusqu'à la semaine dimanche prochain à notre rencontre pour le culte, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.